RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, et au soir, c'est avec vous, Michael Juneski.
À la une, la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Le Premier ministre a évoqué le dossier calédonien devant l'Assemblée nationale. On y revient dans cette édition. À suivre aussi les réactions de la classe politique calédonienne après cette intervention du Premier ministre. Vous entendrez des avis contrastés à la suite du discours de Michel Barnier. Dans le Pacifique, le Japon annonce l'envoi de troupes sur la base américaine de Guam pour réaffirmer les liens avec l'armée des États-Unis sur fond de tensions régionales face à la Chine. La compagnie Air Calédonie effectuera demain son premier vol commercial vers Port Vila. La TR-72 affiche complet pour cette nouvelle liaison avec le Vanuatu. Deux mécaniciens d'Air Loyauté vont suivre une formation aéronautique en Bretagne. Un coup de pouce de la province des îles qui prend en charge cet investissement pour ne pas manquer de main-d'œuvre qualifiée. Les portes ouvertes de l'IFM, l'Institut de formation des maîtres, ont attiré de nombreux candidats intéressés par la filière de l'éducation. Le sport, à 23 ans, la handballeuse Suzanne Wajoka va porter le maillot de l'équipe de France senior, vice-championne olympique. La suite logique pour l'ancienne joueuse de Dimbéa, partie suivre une carrière dans le haut niveau depuis 2016. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. À la une de l'actualité, la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier qui, dans un discours d'1h20, a consacré 2 minutes 30 à la Nouvelle-Calédonie. On en retient, Elisabeth Noir, plusieurs annonces.
2 minutes 30, ça paraît court, mais le Premier ministre a tout de même accordé une place substantielle à la Nouvelle-Calédonie et on en retient notamment qu'il est désireux de s'impliquer personnellement dans le dossier. Il a d'abord rappelé le contexte particulier que vit le territoire et il a insisté sur l'implication de l'État dans le dossier calédonien.
Si vous me le permettez, je voudrais, mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie, dont je salue amicalement et cordialement les élus qui sont ici. Depuis maintenant 4 mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les fonctionnaires de l'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel.
Deux priorités donc pour le Premier ministre dans cette nouvelle étape, la reconstruction économique et sociale et la recherche d'un consensus sur l'avenir institutionnel. Il annonce ensuite la méthode pour reprendre le dialogue politique et notamment l'envoi prochainement d'une mission de concertation et de dialogue en Nouvelle-Calédonie. Elle sera menée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par le président du Sénat, Gérard Larcher. Michel Barnier a également annoncé une mission interministérielle placée auprès de lui et du ministre de l'Outre-mer pour avancer dans les discussions. Il a ensuite annoncé le report des élections provinciales, la non-convocation du Congrès de Versailles sur le corps électoral et des discussions à Paris autour du président Macron.
Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre.
Et on peut préciser que la délégation interinstitutionnelle assistée à cette déclaration de politique générale. Elle a été saluée par la présidente de l'Assemblée et applaudie par les députés, toutes tendances confondues.
La déclaration de politique générale de Michel Barnier a été accueillie diversement par les élus calédoniens et les réactions sont nombreuses.
Les deux députés calédoniens étaient présents dans l'hémicycle pour cette déclaration de politique générale. Le député Nicolas Metzdorf a tout de suite exprimé sa vive déception. Dans un communiqué, il estime que le Premier ministre est passé à côté des priorités des Calédoniens et il évoque au micro de notre correspondant à Paris une feuille de route déconnectée de la réalité.
Une déception puisque le Premier ministre n'a pas parlé d'annonce budgétaire pour la Nouvelle-Calédonie alors que c'est quand même l'urgence absolue d'aider nos entreprises, d'aider nos salariés à subvenir à leurs besoins. Et puis il a parlé en plus du congrès de Versailles sur le dégel du corps électoral. Il a dit qu'il ne réunirait pas le congrès de Versailles. alors que ce n'est pas sa compétence, c'est le président de la République qui décide de convoquer ou pas, ce n'est pas le Premier ministre. Donc il est passé à côté de sa déclaration de politique générale sur la Nouvelle-Calédonie, il s'est fait applaudir sur le sujet par la France insoumise et il a eu un tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon, ce qui démontre que quand même il n'a pas saisi toute la gravité du dossier. C'est pas faute d'expliquer les choses, mais apparemment il faudrait expliquer 2 à 3 fois plus, donc on sait ce qu'on va faire. Je devais rentrer en Nouvelle-Calédonie, je pense que je vais rester pour continuer de faire de la pédagogie et de réexpliquer les choses. Et s'il faut s'énerver un petit peu, on va s'énerver un petit peu.
Nicolas Metzoff prêt à s'énerver un petit peu. Il estime que le Premier ministre a oublié les victimes des émeutes et il annonce donc qu'il va demander un entretien au Premier ministre dans les prochains jours. Même tonalité pour la présidente de la province sud, Sonia Backès, qui est actuellement à Paris. Elle indique que la déclaration de politique générale du Premier ministre n'a pas répondu aux attentes de la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, les loyalistes expriment d'ailleurs leur déception et l'un de leurs porte-parole, Gilles Brial, déclare être resté sur sa faim.
Mais je suis resté sur ma faim avec de la déception. La déception parce qu'il n'y a pas d'annonce claire sur le sauvetage de l'économie calédonienne, sur comment on reconstruit un pays qui a été dévasté par des actes terroristes, comment on sauve les collectivités qui ne peuvent plus assurer aujourd'hui leur politique publique et comment on sauve ces 25 000 Calédoniens qui ont perdu leur emploi. Déçu également parce qu'on ne parle pas du retour à l'ordre nécessaire et des 12 000 Mandoriens qui sont séquestrés chez eux depuis plus de 4 mois. Et puis enfin, surpris de la seule annonce qui est faite finalement, c'est de dire que il y a le retrait du dégel du corps électoral avec en contrepartie un report des élections en 2025. Donc c'est décevant. Après, ça reste un discours. Il faut espérer que ce soit plus un homme d'acte que de discours et que il y a une vraie prise de conscience de l'État, ce qui ne semble pas le cas aujourd'hui, une vraie prise de conscience du gouvernement sur la situation catastrophe de l'économie calédonienne et de la santé financière des familles calédoniennes qui ne peuvent pas s'en sortir sans une aide massive, très rapide de la France. Et ça ne ressort pas du tout dans le discours politique général.
Analyse différente pour Virgile Rufnacht, le chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui assistait à cette déclaration de politique générale avec la délégation interinstitutionnelle. Elle insiste, elle, sur l'intérêt porté par Michel Barnier à la Nouvelle-Calédonie et elle relève que la question du corps électoral sera traitée dans un accord global.
On voit bien qu'il y a un engagement total de l'État à traiter véritablement le sujet calédonien aujourd'hui, avec une mission dépêchée très rapidement à la fin octobre, composée du président du Sénat, Gérard Larcher, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bompivet, ainsi que du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui viendra à la fois au chevet des Calédoniens, mais pour discuter des besoins en termes de reconstruction, de la façon dont on engage désormais les discussions politiques sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez, il y a un report qui a été donné aux élections provinciales pour précisément atteindre un accord global qui reprendra une discussion sur l'ouverture du corps électoral qui est indispensable avant la tenue des prochaines élections. Donc on privilégie aujourd'hui le dialogue approfondi pour obtenir un accord et pour faire en sorte que ces élections provinciales qui se tiendront en 2025 se passent dans de bonnes conditions, dans des conditions apaisées, où on aura eu le temps de régler tous les problèmes, dont celui du corps électoral.
Et dans un communiqué, la délégation interinstitutionnelle salue unanimement le discours du Premier ministre et une gestion du dossier qui sort de la politique du coup par coup. Calédonie Ensemble enfin salue dans un communiqué le retour de l'espoir en parlant d'un Premier ministre qui répond aux véritables attentes de la population calédonienne en ouvrant une nouvelle période pour la reconstruction économique et sociale et la recherche d'un consensus politique sur l'avenir institutionnel. Du côté des indépendantistes, le député de la seconde circonscription Emmanuel Tchibaou était présent lui aussi dans l'hémicycle. Il est plutôt satisfait des annonces faites par Michel Barnier. Le dégel du corps électoral qui ne sera pas soumis au Congrès de Versailles, ajouté au report des élections provinciales, sont pour lui autant de signes positifs.
Oui, je pense que c'est déjà le signe qui nous permet d'aller au-devant de nos compatriotes avec la reconnaissance que l'État prenne ses responsabilités sur la sortie de crise et la reprise des discussions institutionnelles. C'est surtout ça, c'est le fait de prendre ses responsabilités quant au fait de ne pas représenter le texte au Congrès de Versailles. C'est quelque chose qui était attendu au pays. Et puis après, dans le même temps qu'il y a les reprises de discussions institutionnelles, le report des élections provinciales au pays, il y avait 2 options qui étaient prises par les indépendantistes. C'était pas tranché, mais de toute manière, on prend acte. Il y a des annonces, après il faut juger sur acte. On ne peut pas être juste suspendu aux lèvres de M. Barnier en se disant que la situation va s'apaiser de fait.
Quant aux réunions évoquées par le Premier ministre Emmanuel Tchibaou, on prend acte, mais il estime que l'ordre du jour de ces réunions n'est pas suffisamment explicite. Satisfaction également de Victor Tutugoro pour l'UNI. Il estime que les annonces du Premier ministre sont de bon augure parce qu'elle redonne du temps et de la perspective.
En repoussant les élections à l'année prochaine, en ne convoquant pas le projet de loi constitutionnelle devant le Congrès, même si ce sont des choses qui ont déjà été dites par le président Macron, le fait de le reprendre par le Premier ministre, de l'inscrire dans son action gouvernementale, ça redonne de la perspective. Ça va nous permettre de continuer la négociation dans une atmosphère beaucoup plus sereine que si on avait les élections là, que si le Congrès était reprogrammé. Donc voilà, ça redonne de la perspective, ça redonne de la sérénité, même si le terrain n'est pas encore propice à ça, mais au moins dans la tête, il y a au moins cette sérénité-là.
Et dans un communiqué, le groupe UCF-LNCS et nationaliste du Congrès se félicite des engagements pris par ce nouveau gouvernement qui semble vouloir rompre avec le comportement politicien et unilatéral du précédent exécutif. Réaction enfin sur le territoire de l'association Un cœur, une voix, qui défend, vous le savez, les exclus du corps électoral. Son président Raphaël Romano s'exprimait ce matin dont vous avez un avis. Il a réagi à l'annonce de la non-convocation du Congrès de Versailles sur le dégel du corps électoral.
Le dégel du corps électoral est un prétexte qui a été utilisé par des terroristes et des émeutiers alors que c'était préparé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et le fait de ne pas passer le texte au Congrès, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégel du corps électoral parce que les avis juridiques du Conseil d'État ont été limpides. Les élections provinciales ne pourront pas se tenir avec un corps électoral gelé. Je pense que l'État joue l'apaisement dans le sens où il essaiera de trouver un consensus avec les partis politiques loyalistes et indépendantistes. Mais nous ferons encore notre part. Je le dis aux Calédoniens, la démocratie doit l'emporter en Nouvelle-Calédonie.
Et enfin, dans un communiqué, l'Association française des maires rappelle que son président, Pascal Vittori, avait informé le cabinet du Premier ministre du choix, à l'unanimité de ses membres, de reporter les élections provinciales en 2025. Ce choix vise à garantir la bonne tenue des élections, tant sur le plan sécuritaire que politique, écrit l'association, qui souligne que les maires sont en première ligne en tant qu'organisateur des bureaux de vote lors des scrutins.
Merci Elisabeth Noir. Vos rendez-vous sur RRB. C'est le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Mathéos, qui sera demain notre invité du matin. Nous l'interrogerons sur la situation à Saint-Louis après la reddition de plusieurs individus recherchés et plus globalement sur la situation sur le terrain, près de 4 mois et demi après le début des émeutes. Une interview du général Mathéos à suivre demain à partir de 7h30. Autre rendez-vous d'antenne, la question du financement du sport. Quelles sont les grandes difficultés des ligues et des comités pour être accompagnés depuis la crise insurrectionnelle? Quelles sont les pistes pour surmonter les contraintes budgétaires? Les sponsors sont-ils plus durs à trouver qu'auparavant? Quel avenir pour certaines disciplines qui ont perdu une grande partie de leurs aides? Eh bien, nous en parlerons demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous serons en compagnie d'Ingrid Laurent, présidente de la Ligue calédonienne de pétanque, d'Olivier Ledin, président de la Ligue calédonienne de tennis, mais aussi de Régis Buquet, directeur général de la BNC, de Frédéric Cantès de la société Manpower et de Philippe Lepoul, responsable de la jeunesse et des sports à la province sud. Ce sera à suivre demain midi, juste après Infomac, votre grand journal de 11h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après la reddition des principales personnes recherchées à Saint-Louis pour des tirs contre les gendarmes, des carjackings et l'incendie de l'église de la mission, faut-il, selon vous, rouvrir la circulation sur la RP1? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est 78% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les organisateurs de la foire de Bourail ont eu raison d'annuler l'édition 2024. Ils sont 22% à penser qu'ils ont eu tort. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. L'actualité dans le Pacifique. À Tokyo, le nouveau Premier ministre japonais a réclamé un rééquilibrage du pacte militaire qui unit le Japon aux États-Unis. Tous les détails avec notre correspondant régional, Jean-Pierre Zajac.
Shigeru Ishiba a déclaré qu'il était devenu nécessaire, je le cite, de niveler l'accord asymétrique et déséquilibré qui lie les forces japonaises d'autodéfense à l'armée américaine. Le traité actuel de sécurité, a-t-il expliqué, est structuré de telle sorte que les États-Unis sont obligés de défendre le Japon et le Japon est obligé de fournir des bases aux États-Unis. Dans le cadre du rééquilibrage qu'il propose, les forces japonaises d'autodéfense, je le cite encore, pourraient être déployées à Guam pour renforcer les capacités de dissuasion de l'Alliance américano-nippone. Il a ajouté que l'un de ses objectifs était de contribuer à la paix et à la stabilité des nations de l'Indo-Pacifique sur la base de l'alliance militaire Japon-États-Unis. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité et la première liaison d'Air Calédonie vers le Vanuatu. À tout de suite.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout.
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur e-réparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Info soir, Michael Juneski.
L'actualité des transports aériens, comme annoncé, c'est demain le départ du premier vol commercial opéré par Air Calédonie à destination du Vanuatu. La compagnie domestique effectuera une desserte depuis la Tontuta jusqu'à Port Vila. L'ATR 72 de la compagnie Air Calédonie décollera de la Tontuta à 15h pour une arrivée à destination prévue à 16h30. L'ouverture des réservations s'est faite il y a 3 semaines et la première rotation affiche déjà complet. Les précisions de Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Air Cal.
Nous faisons notre premier vol effectivement demain sur cette nouvelle destination de Port Vila avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. Et puis le vol affiche complet. Donc on a 65 passagers qui vont inaugurer notre ligne avec quelques petites surprises pour les accueillir et faire qu'ils passent un bon premier vol avec nous. Au retour de Port Vila, nous avons une trentaine de passagers qui sont déjà réservés sur l'avion. C'est un vol qui est en partenariat codeshare donc avec Air Calin. Donc les billets sont en vente aussi bien chez Air Calédonie et ses distributeurs que chez Air Calin et ses distributeurs. Ça a été effectivement une surprise ou en tout cas un point très positif pour nous, c'est que dès l'annonce de cette nouvelle ligne et l'ouverture des ventes, il y a eu un engouement vraiment notable et on va dire ce rythme de réservation continue à être relativement soutenu. On a déjà 1200 coupons qui ont été vendus, donc pour nous c'est au-delà de ce qu'on espérait. C'est une très bonne nouvelle et c'est aussi un signe que la ligne pourra vraiment se pérenniser. Donc c'est extrêmement positif et porteur pour la compagnie évidemment, pour Air Calin avec qui nous sommes en partenariat et qui du coup propose plus de solutions à ses clients et puis pour les territoires qui vont du coup être reliés de manière pérenne.
Marion Gentelet, directrice commerciale d'Air Calédonie, la compagnie effectuera une liaison régulière, 2 vols hebdomadaires vers le Vanuatu les lundis et jeudis et ce dès la semaine prochaine. Il quitte ce soir le RIL pour s'envoler vers la métropole. 2 jeunes loyalsiens partent se former en Bretagne pour devenir mécaniciens aéronautiques. Un voyage de 6 mois entièrement pris en charge par la province des îles et avec à la clé un poste à Air Loyauté, Charlotte Coulson.
Florian Wadené est originaire de Tiga et François Nilic de Ouvéa. Tous deux sont déjà aides mécano pour Air Loyauté mais s'envolent maintenant pour devenir mécaniciens aéronautiques. Une certification conséquente puisqu'elle leur permettra de signer les contrôles effectués sur les avions. Jusqu'à maintenant, la compagnie aérienne ne dispose que de 2 mécaniciens possédant cette habilitation. C'est donc une grande fierté pour Florian Wadené qui réalise enfin son rêve d'enfant.
Ça fait 4 ans, je suis rentré dans la compagnie en tant qu'agent de piste. J'ai fait 6 mois en tant qu'agent de piste. Ensuite, on m'a proposé le poste d'aide mécanicien pour les 4 ans. Et puis là, on me propose la formation pour devenir technicien. Actuellement, je suis aide mécano. Et je souhaite devenir B1. Un B1, si vous voulez, c'est le plus haut grade de la maintenance aéronautique. C'est pouvoir signer pour mettre l'avion en vol. Des B1, il n'y en a pas beaucoup. Surtout chez nous, là, dans les îles, il n'y en a pas beaucoup. C'est important d'avoir beaucoup de certificateurs des îles, quoi. C'est beaucoup de fierté. Comme je disais, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Depuis que je suis petit, maintenant, on a grandi avec les avions. Moi, j'ai toujours rêvé d'être mécanicien aéro. Et c'est une fierté, oui.
Un voyage et une formation d'un coût total de 1,8 million, entièrement financé par la province des Îles. Selon Isabelle Béarounet, élue à la province, malgré les difficultés financières rencontrées par la collectivité, il s'agit là d'un investissement prioritaire.
La province des Îles, nous avons toujours cette double insularité, voire triple insularité. Donc c'est un objectif politique, c'est un investissement, c'est un projet primordial pour le transport pour nos populations. Mieux servir nos populations, d'abord les inter-îles et TIGA, c'est une priorité. Et ensuite les transports de corps et bien sûr pour le développement touristique de la province des Îles qui est aussi une activité économique majeure des îles Loyauté. C'est pour ça que je disais que c'est un investissement parce que ces jeunes-là, on les envoie et on est sûr qu'au retour, ils vont retourner et travailler ici dans la compagnie. Et c'est aussi un exemple pour d'autres jeunes, justement, dans le métier de mécano.
Et les deux jeunes s'envolent donc ce soir pour la Bretagne et seront normalement prêts dans 6 mois pour intégrer la compagnie Air Loyauté.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
Voilà un mois et demi que Lagoon a subi une cyberattaque de grande ampleur. Le fournisseur d'accès Internet est revenu sur l'incident et annonce entamer, Léana Colombo, une phase de reconstruction.
Oui, le 18 août dernier, le fournisseur d'accès Internet Lagoon a été la cible d'une cyberattaque par rançongiciel de type crypto, impactant ses infrastructures d'hébergement de serveurs. De nombreux usagers, particuliers comme professionnels, ont été impactés. La messagerie a notamment été inutilisable pendant près de 2 semaines et l'accès à Internet a été dans les premiers temps impossible pour près de 40% des abonnés. Dans son histoire, le fournisseur a déjà été victime de cyberattaques et a toujours réussi à les contrer. Mais la situation depuis le 13 mai a fragilisé l'entreprise, explique le directeur général de Lagoon, Stéphane Mathéo.
On était une cible parfaite, c'est-à-dire que nous, au Plexus, non seulement nous avons nos bureaux, mais nous avons aussi une salle informatique qui était notre salle de secours. Quand le Plexus a été attaqué, on a été partiellement incendié, mais vandalisé, rendu inexploitable tout cet environnement. Donc à ce moment-là, quand on a été attaqué, les attaquants ont non seulement chiffré notre sauvegarde locale qu'on avait gardée en Nouvelle-Calédonie, mais ils avaient effacé celle qu'on avait à Paris. Donc ils nous ont laissé à ce moment-là juste sous perfusion avec une entreprise qui marchouillait, on va dire. Quand on travaille dans le milieu, on sait ce qu'un ransomware, on sait que ça va être un monstre à traiter. On prend une bonne claque derrière la tête et à ce moment-là, on commence à mettre nos premières briques en place par une cellule de crise, par des gens pour nous accompagner. On met tous nos sentiments de côté. On est presque un robot, on exécute un mode opératoire. L'émotion, on la met de côté. On n'a pas le temps, on n'a pas ce luxe.
À l'heure actuelle, les cybercriminels n'ont toujours pas été identifiés et localisés, mais tous les services Lagoon sont désormais rétablis. Pour contenir les effets de la cyberattaque, le fournisseur d'accès s'est tourné vers les forces de l'ordre, des entreprises locales expertes en cybercriminalité, mais aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une expertise bienvenue selon Stéphane Mathéo, qui aura permis d'empêcher la propagation du logiciel malveillant à d'autres réseaux.
Sur cet incident, l'ANSSI nous a énormément accompagnés, dans un premier temps depuis la métropole, depuis Paris. Et ils ont dépêché une équipe qui est arrivée le jeudi, 4 personnes, 4 ingénieurs, qui ont d'abord démarré un travail de forensique, relevé de traces, afin de déterminer par où les cyberattaquants sont passés. Ils nous ont aussi aidés à récupérer la main sur notre plateforme d'hébergement par une porte dérobée, avec des astuces, vraiment c'était des experts en la matière. Et de là, ils ont continué avec des conseils sur la sécurité et l'architecture de notre environnement. Ils avaient une expertise qui nous ont fait un bond vers l'avant, qui nous ont aidés dans cette période de crise.
Toute menace étant désormais écartée, il faut penser à la reconstruction d'un réseau sain. C'est ce qu'ont déjà entamé les équipes de Lagoon. La phase devrait durer jusqu'à fin janvier 2025. Pour Stéphane Mathéo, ce temps est nécessaire pour protéger plus efficacement les données.
Cette phase de restauration de données prend un certain temps parce que même si on récupère la main sur de la donnée, il faut un temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de mouchards, on va dire, laissés par les cyberattaquants. On était obligé de se garantir un maximum d'une certaine non-compromission de la donnée avant de pouvoir la remettre à disposition, soit pour nos clients résidentiels, soit pour nos clients professionnels. Nous allons reconstruire en suivant les directives NIS 2, donc les directives européennes sur la cybersécurité. Nous sommes accompagnés par l'ANSSI et par une société spécialiste en cybersécurité. Sécurité sur le territoire. Donc, on investit massivement, non seulement dans les outils pour détecter toute anomalie sur notre infrastructure, mais aussi sur les personnes pour nous accompagner et sur les équipements généraux, on va dire autres, pour renforcer toute nouvelle attaque.
En parallèle de ces nouvelles mesures internes, Lagoon souhaite sensibiliser ses abonnés à la cybercriminalité et rappeler les bons gestes à adopter. Un mail a déjà été envoyé à l'ensemble de ses clients et une table ronde est prévue au cours des prochaines semaines.
C'était aujourd'hui l'ouverture du nouveau magasin Décathlon rue de l'Alma à Nouméa en centre-ville, 4 mois et demi après le saccage et l'incendie de Décathlon Kenwin. Un magasin plus petit mais qui regroupe l'essentiel des vêtements, chaussures et équipements sportifs. C'est un pari réussi pour Décathlon qui a attiré la foule ce matin. Écoutez les témoignages de ses premiers clients.
On est bien content que ça soit réouvert, même si c'est plus petit. Bon, on n'a pas pris grand-chose. Ce qui nous manquait, en fait, une paire de chaussures qu'on attendait et puis un bat pour faire la gymnastique.
J'ai trouvé des articles pour mon vélo électrique. Je suis content.
C'est bien, c'est nouveau et puis bon, les prix sont abordables.
Dans les autres magasins, c'était plus cher que Décathlon et ça fait plaisir. Il y a plus d'articles que dans les petits...
Ah, mais moi, je vais de la CAFAT. Ben, j'ai vu que c'est ouvert. Je profite. Je suis prêt à ça.
C'est net, c'est en ville, puis c'est tout prêt pour nous.
Au moins, c'est juste là. On n'a pas à prendre le car ou à se déplacer. C'est juste là. On marche juste de la maison.
Alors moi, je viens d'arriver de l'IFU, là, le premier vol. Du coup, je suis venue faire un petit tour. Le fait de revoir des choses qu'on avait encore avant, ça fait du bien. Et en même temps, de voir des choses pour préparer la Noël, parce que la Noël arrive à grands pas.
Et notez que le nouveau magasin rue de l'Alma est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. En bref, la déchetterie de Magenta a réouvert ses portes aujourd'hui. Le site était fermé depuis le 20 septembre en raison de nombreux actes de vandalisme subis. Le lieu sera surveillé la nuit pour éviter de nouveaux incidents. Les trois déchetteries de Nouméa, c'est-à-dire Magenta, Ducos et au 6e kilomètre, rouvriront désormais 7 jours sur 7 sur la page de Facebook de la ville de Nouméa. C'est ce qui est indiqué de 7h à 17h. L'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie recrute. L'IFMNC ouvrait cet après-midi ses portes au grand public. De quoi présenter la formation aux lycéens ou aux personnes en réorientation, Charlotte Coulson.
Ils étaient près de 200 à faire le déplacement à Lanzvata cet après-midi. Sur place, l'Institut organisait plusieurs ateliers de présentation de la licence, un diplôme en 3 ans qui permet de devenir instituteur. La directrice de l'établissement, Christina Chalio-Wemama, était sur place pour présenter la formation. Et dorénavant, les élèves de l'IFMNC sont accompagnés de spécialistes qui les forment à prendre en charge les interrogations des enfants sur la crise consécutive aux émeutes que nous traversons actuellement.
Pour intégrer la formation, ce sont des tests de sélection qui sont organisés en partenariat avec l'université et il faut avoir au moins le bac. La formation se déroule sur 3 années dans le cadre d'une licence qui est portée par l'université, mais nous délivrons, nous, la formation. Effectivement, alors, cette crise a suscité beaucoup de stress chez les élèves. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de nos étudiants, il y a eu un accompagnement particulier avec des spécialistes qui ont travaillé sur la gestion de cette situation de crise, ne pas créer de surévénements. Donc, ils ont été accompagnés et sensibilisés à cela parce qu'on n'est pas psychologues pour autant, mais voilà, effectivement, ils ont été outillés pour essayer de répondre au mieux aux difficultés qu'ils pourront confronter, parce qu'ils font des stages régulièrement, donc assez rapidement, ils sont repartis en classe. On a des étudiants qui sont partis en classe dès juin, par exemple.
La directrice de l'établissement, Christina Chalio-Wemama, qui saluait d'ailleurs la diversité des profils présents cet après-midi. Sur place, de nombreux lycéens et lycéennes préparaient leur orientation pour l'année prochaine, et d'autres personnes se renseignaient en vue d'une réorientation. On écoute ces quelques témoignages.
Je suis intéressée par ce métier d'enseignante depuis longtemps. J'aime beaucoup les enfants et tout ça. J'ai vu quelques vidéos à l'intérieur des personnes qui faisaient l'IFM, ça avait l'air plutôt intéressant.
Je suis caissière dans une supérette et je suis très intéressée aujourd'hui d'être à l'IFMNC pour pouvoir en savoir plus sur le métier, pour pouvoir enseigner dans le premier degré. Ça m'a beaucoup aidée. C'est différent de la journée porte ouverte de l'an dernier. Sinon, j'ai beaucoup aimé avec le petit témoignage d'une élève de l'IFM.
Bah, ça fait très longtemps que j'ai cette idée-là de faire maîtresse d'école.
C'est pour ça que tu es là aujourd'hui ?
Oui, pour savoir plein de choses encore pour le mois prochain, même peut-être ce mois-ci, passer les épreuves.
Et à noter que les candidatures pour s'inscrire à la formation de l'IFMNC se fait sur Parcoursup jusqu'au 23 octobre.
18h passé de 14 minutes, une dernière page de publicité avant de parler d'une Calédonienne qui va intégrer l'équipe de France senior de handball. A tout de suite.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, Première radio d'information.
La suite du journal, et c'est du sport, Mickaël Genesky.
Et à la une du sport, du handball au féminin. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France a annoncé sa liste des joueuses sélectionnées pour des matchs amicaux. Et la Calédonienne, Suzanne Wajoka, va faire ses premiers pas sous le maillot de la sélection senior, Léo Fichou.
Et oui, c'est la suite logique pour celle qui a suivi un parcours de longues années vers le plus haut niveau. L'ancienne joueuse de Dumbéa, partie en métropole en 2016, a déjà été capitaine de l'équipe de France junior. Elle a également pris part à plusieurs compétitions internationales dans les jeunes catégories d'âge. Et à 23 ans, elle sera pour la première fois sous le maillot des handballeuses tricolores seniors, vice-championne olympique cette année à Paris. Elle fait partie de la liste des joueuses qui disputeront deux confrontations face à la Hongrie. Et ce n'est pas une surprise, selon Olivia Vaitanaki, la responsable du pôle espoir de handball de Nouvelle-Calédonie.
Forcément beaucoup de joie et de fierté quand on a appris la nouvelle. Et puis voilà, on savoure un petit peu... la petite récompense du travail accompli jusque-là.
Le cas de Suzanne, le haut niveau était attendu et désormais ça va se confirmer.
Oui, c'est vrai que Suzanne a vraiment de belles qualités physiques, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez déterminé et qui a beaucoup travaillé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la récompense de tout ce qu'elle a fait jusqu'au début. C'est un symbole fort, c'est vrai que Suzanne, c'est la première qui est partie. Et c'est vrai que c'est le premier potentiel qu'on avait détecté sur le territoire. La plupart des filles et des garçons qui sont derrière elles sont plus jeunes. Donc ça montre déjà qu'on ne s'est pas forcément trompé sur notre manière de travailler et sur l'accompagnement qu'on a eu avec les différentes institutions. Et j'espère que ça va perdurer.
L'ailière gauche du club de Besançon sera avec l'équipe A contre les Hongroises les 24 et 26 octobre, tandis que les cadres des Bleus ont été laissés au repos. C'est donc la confirmation pour celle qui pourrait intégrer durablement l'équipe de France féminine et disputer les grands matchs au sommet mondial en cas de réussite pour cette grande première.
Et on termine avec du football sur le territoire. Il y avait 3 matchs du trophée du Grand Nouméa hier soir, Léo Fichou.
Tout d'abord, un match en retard de la 6e journée qui opposait l'AS Magenta à Tigaspor. Les deux équipes se sont affrontées au stade Pentecôte. Et au final, les joueurs de Tigaspor se sont imposés 4-3 alors qu'ils étaient menés 3-1. Du côté du Parc des Sports de Coutio, 2 matchs de la 8e journée étaient au programme hier soir. Dumbéa a battu Horizon Sport 3-1. L'AS Lossy et l'AS Wetch ont fait match nul 2-0.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Une compétition d'un tout autre genre. Pour finir, on parle cuisine et l'association VGNC qui organise un concours de recettes végétales, Léo Fichou.
Oui, un concours à destination des professionnels organisé dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu à la mi-novembre. Pour participer, les professionnels ont jusqu'au 31 octobre pour proposer leurs recettes végétales accompagnées d'une photo de leur plat. Ensuite, on pourra tous voter, vous pourrez tous voter, auditeurs, pour désigner les 3 finalistes. Une finale qui aura lieu dans la cuisine du Pacific Food Lab le 6 novembre prochain. Guy Kane est président de l'association VGNC. Il explique l'objectif de ce concours.
Petit à petit, ces recettes gourmandes rentrent dans les foyers. Hein. Aujourd'hui, on part de la viande ou du poisson et ensuite, on va mettre des accompagnements à côté. Et quand il n'y a pas la viande ou le poisson, les gens ont l'impression qu'ils ne mangent que des accompagnements. Alors qu'en réalité, on peut vraiment manger de façon gourmande avec que des légumes pour des raisons écologiques. Hein. Je pense que maintenant, tout le monde sait que le végétal, c'est beaucoup plus vertueux pour l'environnement et pour notre santé aussi. Hein. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, on a vraiment un problème de santé qui est lié à la malbouffe. Hein. Et donc, le but, c'est de faire partie de cette transition alimentaire parce que, une alimentation végétale produit 10 fois moins de déchets qu'une alimentation animale.
La remise des prix se fera le 16 novembre de 17h à 19h au Rex à l'occasion de la diffusion d'un documentaire débat. Toutes les informations sur ce concours de recettes végétales sont à retrouver sur la page Facebook de l'association VGNC.
Merci beaucoup Léo Fichou. 18h19, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Mickaël. Alors cette nuit, sur la côte est de la pointe nord, le ciel deviendra le plus souvent bien étoilé. À l'inverse, sur les autres régions, il deviendra très nuageux avec des averses régulières. Le vent soufflera de sud à sud-est entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 16 et 20 degrés en général et de 12 à 15 degrés sur l'ouest et marée. Demain matin, le ciel sera très nuageux avec parfois des averses loyautées sur l'extrême sud et l'île des Pins. Ailleurs, les nuages présents au lever du jour se dissiperont au cours de matinée et le soleil parviendra à s'imposer. L'alizé de sud, sud-est à sud-est soufflera autour de 20 nœuds sur le nord-ouest. Ailleurs, il soufflera entre 15 et 20 nœuds, sauf sur la côte est qui sera encore abritée par la chaîne Michael.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo, la technique. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal. Prochain point sur l'actualité avec la rédaction d'RRB à 19h. Dans un instant, l'actualité nationale et dans le monde avec nos confrères d'Europe 1. Ce sera suivi de l'interview d'Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit ce soir l'ancien ministre Pierre Lellouche en vous souhaitant de passer une excellente soirée sur RRB.